Salut, chers overthinkers. J'espère que vous portez très bien. J'espère que vos activités vont très bien. Bon, nous aussi, de notre côté, nous portons très très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Overthinking que vous aimez tant et que j'espère vous est très instructif. Le sujet de cet épisode sonne comme une problématique intemporelle puisqu'il s'agit de la question des droits de l'homme. Selon les organisations internationales, les ONG, la situation des droits de l'homme dans le monde n'a jamais été aussi exécrable qu'en 2020, avec évidemment la pandémie de la COVID-19 qui a vu les États restreindre considérablement les droits et l'espace de liberté de leurs citoyens. Le droit de l'homme, une réalité à géométrie variable? Point d'interrogation. Ici, avec nous, comme invité, Ghislain Job Daignon, pour répondre à nos préoccupations.
Avec bonjour Rachel, ça ne va
pas. Donc, bonjour Ghislain.
Bonjour Rachel. Ok, bonjour Rachel.
Merci d'avoir accepté de répondre à ma question.
Non, c'est moi qui te remercie plutôt.
Je rappelle que tu es juriste spécialiste des questions des droits de l'homme. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les droits de l'homme, une réalité à géométrie variable. Donc, c'est une question que je me pose. Je dirais que je ne suis pas le seul à me poser la question. Tout le monde se pose la question au vu de l'évolution des droits humains dans le monde, de nos jours.
Oui.
Donc, c'est pour cela que j'ai mis en place, j'ai pensé à la problématique afin que les gens qui sont pas, ceux qui ne sont pas juristes comme nous puissent comprendre ce qu'il en est réel quand on parle de droits de l'homme.
Et
tu es justement quelqu'un de bien placé qui puisse intervenir sur la question. Donc, d'entrée de jeu, je vais te demander de nous définir, de nous dire comment on peut définir les droits de l'homme et si possible de nous faire un peu l'historique des droits de l'homme.
D'accord, merci beaucoup. D'abord, quand on parle de droits de l'homme, c'est pas droit de l'homme petit h, mais à la fois le droit des hommes, hommes petit h et des femmes naturellement. Donc généralement quand on écrit ça à l'écrit, on voit droit de l'homme avec grand h, homme grand h. Pour certains, pour éviter tout amalgame, on dit droits humains. Alors, les droits humains, ce sont simplement tous les droits, tous les privilèges qu'on a du simple fait que nous soyons humains. C'est-à-dire que du jour où vous naissez sur la terre, vous avez tout ce qu'on peut appeler droit de l'homme. Droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la santé, tous les privilèges, droit d'ester en justice si vous voulez, vous avez un problème, droit d'avoir une propriété, une maison. Vous avez le droit de faire tout ce que l'État vous accorde sur son territoire. Pas seulement l'État, mais au-delà des territoires de votre État, vous avez ces mêmes droits. Parce qu'en réalité, ce sont des droits qui sont universels. Les droits de l'homme n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de droit de l'homme pour le Bénin, il n'y a pas de droit de l'homme pour le Togo ou encore pour la France. Mais que vous soyez au Bénin, en France, aux États-Unis, ce sont des droits qui vous sont accordés du simple fait que vous soyez un être humain.
Est-ce que ce concept est jailli dans l'esprit comme ça ou bien c'est une construction sociologique et juridique qui date d'une époque donnée et qui a débouché sur cette définition, cette conception?
C'est plutôt une construction tout à fait sociologique et juridique. D'ailleurs, le test le plus fondamental qu'on voit aujourd'hui en matière de droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est vrai que ça date de 1948, mais en réalité, les droits de l'homme sont plus vieux que ça. Les droits de l'homme, comme Eleanor Roosevelt le disait, elle fait partie de ceux qui ont rédigé la Déclaration universelle.
On rappelle Eleanor Roosevelt, c'est la première dame des États-Unis à l'époque de la guerre. C'est la première dame, l'épouse de Franklin Delano Roosevelt. Donc le président qui a eu le plus de mandats constitutionnels aux États-Unis.
Donc, Eleanor Roosevelt disait que les droits de l'homme, je vais paraphraser sa citation, disait que les droits de l'homme naissent à côté de nous. Notre premier geste, notre premier mouvement, nos premiers comportements à la maison, c'est là déjà que naissent les droits de l'homme. Et vous savez que l'être humain ne date pas de 1948. Donc en réalité, les droits de l'homme, sont nés au même moment de l'existence de l'être humain. Et ça a été concrétisé un peu plus après avec Cyrus le Grand. Vous le connaissez peut-être?
Oui, Cyrus le Grand.
Cyrus le Grand avait rédigé, je vais dire, un tableau sur lequel il mettait quelques droits pour les esclaves. Vous voyez? Après, quand on va dans la religion, les droits de l'homme étaient déjà dans la religion. Quand le christianisme dit « tu ne tueras point », le droit à la vie. Quand l'islam aussi dit que, il y a des sourates dans le Coran qui valorisent aussi les droits de l'homme. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces textes sacrés ne datent pas de 1948.
Totalement.
En 1948, on a juste essayé de fondamentaliser ces droits-là, de les rendre beaucoup plus universels. Parce que tous les États ne sont pas islamiques, tous les États ne sont pas chrétiens. Tous les États n'appliquent pas ces traditions, ces coutumes qu'appliquaient les Romains ou encore les Gaulois dans le temps. Donc, pour que les droits de l'homme puissent être vraiment universels, appliqués sur tous les territoires du monde, on a pensé au droit, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et bien sûr après les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, je rappelle aussi que ça entre aussi dans, je dirais, la déclaration issue de la Révolution française entre également dans le cadre des droits de l'homme,
la déclaration droit des citoyens.
Des citoyens et des peuples, entre également dans le cadre des droits de l'homme. Oui. Donc, comme tu viens de le dire, tu as dit que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement circonscrit sur un territoire donné, c'est-à-dire les droits que nous avons en tant que personne humaine au Bénin, cela se transfère sur la personne, n'importe où cela est acquis, n'importe où nous allons, que nous soyons au Togo, que nous soyons en Chine, ou que nous soyons aux États-Unis. En cela, j'aimerais poser la question de savoir quels sont les instruments internationaux qui permettent donc la protection de ces droits que l'humain acquiert dès sa naissance.
Comme je le disais, l'instrument le plus phare, le premier qu'on voit aujourd'hui, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui regorge 30 articles. Et dans ces articles-là, on fait un brainstorming, comme les Anglais le disent, mais un résumé de tous les droits que l'humain peut se prévaloir comme droit de l'homme. À côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a le Pacte international civil et politique qui relate tous les droits civils et politiques, le droit de voter, le droit à l'éducation et tout ça. À côté du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a le Pacte international relatif aux droits économiques et socio-culturels. Ce sont trois instruments phares qu'on peut avoir à l'international concernant les droits de l'homme. Mais ce n'est pas que ça. Dans chaque État qui se veut démocratique, je vais dire aujourd'hui, il y a un instrument phare qui protège les droits de l'homme, c'est la Constitution. Ici au Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990 ou encore de celle récente de 2019 consacre et fait respecter les droits de l'homme.
Donc on pourrait donc dire que tout texte législatif ou constitutionnel qui consacre donc, je dirais, le principe de respect de droits de l'être humain est un instrument juridique qui protège les droits de l'homme.
Tout à fait. Et je dirais même, j'ai peut-être oublié de le dire, mais sur chaque continent, il y a aussi ces textes fondamentaux-là qui sont rangés, qui sont élaborés pour protéger au mieux les droits de l'homme. En Afrique, on a la Charte africaine des droits de l'homme. En Europe, il y a la Charte européenne des droits du sauvegarde des droits de l'homme. En Amérique aussi, il y a un texte consacré uniquement et spécifiquement aux droits de l'homme. Et c'est pareil en Asie. Donc, sur chaque continent, il y a un texte sacré, enfin, un texte fondamental pour protéger au mieux les droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas forcément faire confiance aux États.
D'accord. Tout à l'heure, tu as évoqué la question de... Tu as évoqué les droits civiques et politiques. Justement, j'aimerais te demander, est-ce qu'il existe un classement par catégorie des droits de l'homme? C'est-à-dire, on a, je sais pas, le droit civique, les droits politiques, les droits culturels, ainsi de suite.
Généralement, on parle de quatre générations de droits. Premièrement, il y a les droits civils et politiques. avec en relation. Quand on met la relation avec le pacte international civil et politique, c'est cet instrument-là qui consacre et garantit ces droits civils et politiques. Dans la deuxième génération de droits, on a les droits économiques et socioculturels. Et dans la troisième génération, on a les droits de solidarité, une quatrième génération.
Est-ce que tu pourrais au moins expliquer aux gens ce que cela signifie, le droit civique et politique, en quoi cela consiste, les droits socioculturels, en quoi cela consiste?
Je vais plutôt y aller avec des exemples, ça va être plus simple.
C'est
quand on parle des droits civils et politiques, ce sont les droits les plus basiques d'ailleurs. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité de votre corps, le droit de vote, c'est un droit politique. Vous voyez, le droit d'être élu en même temps, de participer à la gestion des affaires publiques de votre État. Dans la catégorie des droits économiques et sociaux culturels, le droit de faire vos activités commerciales comme vous le voulez, le droit d'aller à l'école, l'éducation, le droit à la santé, le droit de faire des manifestations. Et l'un des droits les plus phares d'ailleurs de la liberté, des droits civils et politiques, c'est le droit à la liberté d'expression.
Et le droit à la liberté d'opinion, si je me trompe.
Tout à fait. Je pense que ces droits, ce sont des droits que j'appelle des droits qui sont très liés. La liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de manifestation.
D'association également.
D'association également. Merci.
D'accord. Et maintenant, tu sais, depuis quelque temps, il y a un débat sur les réseaux sociaux qui se pose selon lequel les pays africains n'ont pas besoin des droits de l'homme pour se développer. Alors, j'aimerais te demander quel rôle jouent les droits de l'homme dans le développement d'un État.
En réalité, il y a une confusion qu'on fait très souvent en liant intrinsèquement droits de l'homme et démocratie. Enfin, développement et démocratie, je veux dire. Beaucoup pensent que quand on parle de développement, on parle forcément de démocratie, parce qu'en réalité, quand on parle de démocratie, on parle des droits de l'homme, respect des droits de l'homme. Mais on peut être développé sans pour autant respecter les principes démocratiques, sans pour autant respecter les droits de l'homme.
Un exemple.
L'exemple typique d'un État qui est développé. Sans respecter les droits de l'homme. Vous voyez, ça va revenir sur la question, la situation actuelle dans notre pays. On voit une croissance économique. On voit la construction des rues, tout comme au Rwanda d'ailleurs. On voit les infrastructures qui sont là, on voit une croissance économique, la création des entreprises pour faciliter la richesse. Mais les libertés n'existent plus, réellement. On n'a plus le droit de manifester comme ça se devait, comme ça se doit. On n'a plus le droit de donner son opinion sans avoir peur. Les tests sont élaborés pour encadrer, sinon restreindre ces libertés-là. Mais il y a le développement. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas circuler dans Cotonou. On voit des changements, on voit des rues qui nous facilitent le transport. Mais la population, est-ce qu'on est libre de parler ou est-ce qu'on est libre de se manifester? Est-ce qu'on est libre vraiment de faire ce qu'on veut tout en respectant, bien sûr, le droit des autres? Non, je ne dirais pas. Donc, on peut être dans un pays, respecter les droits de l'homme et être développé, tout comme on peut être dans un pays, être développé économiquement, tout en respectant les droits de l'homme. Mais l'idéal, c'est de pouvoir assimiler, sinon, concilier développement et droits de l'homme. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de belles rues, d'avoir de belles constructions dans le pays si la population a faim. Si la population ne peut pas dire ce qu'elle veut, si la population ne peut pas s'exprimer sur certaines situations, si la population ne peut pas participer réellement aux élections pour faire élire ses dirigeants.
Ouais. Je m'en vais te poser toute la question, puisque tu as évoqué la situation qui prévaut dans notre pays depuis quelques temps. Là, je m'en vais te poser. Est-ce que les droits de l'homme sont une réalité en Afrique?
Une réalité en Afrique, c'est une question plutôt à double volet. Enfin, la réponse à la question peut être à double volet. D'une part, je dirais oui. Oui, mais une réalité relative. Parce que c'est vrai, il y a un minima de droits de l'homme qui est respecté. C'est vrai qu'on dit que les droits de l'homme sont indivisibles. Quand vous violez un droit, c'est comme si vous violez tous les autres droits. Mais il y a un minima qui est respecté. le fait que vous allez à l'école, le fait que vous ayez droit à la santé, le fait que l'État met à votre disposition la police pour assurer votre sécurité, c'est en quelque sorte des garanties des droits humains. Mais, second volet de la réponse, les droits de l'homme ne sont pas totalement une réalité parce que la violation flagrante qu'on voit le plus en Afrique, c'est la privation de la liberté des populations. Les dirigeants africains aujourd'hui ont cette manie-là, ont cette facilité à restreindre les libertés d'expression et de façon intelligente. Ça se voit dans les lois. Vous voyez, généralement, on dit quand il y a une loi, c'est que tout le monde doit respecter ça comme un état de droit, un état démocratique. Mais quand le dirigeant, il fait ça intelligemment, quand il s'arrange pour que dans les textes qui seront élaborés, qui seront publiés, en plus restreindre vos droits, vous voyez que vous êtes bien cul. Vous ne pouvez pas jouir de ce droit-là. Donc, avec ces arguments-là, je dirais que oui, en Afrique, la réalité des droits de l'homme, c'est variable. Ça dépend de chacun. Ça dépend des positions politiques des gens. Ceux qui sont avec de la même opinion politique qu'un gouvernant dira que oui, les droits de l'homme sont une réalité. Oui, il y a les voies qui sont construites. On permet à tout le monde de créer une entreprise au Bénin, par exemple. On permet à tout le monde de créer une entreprise. Personne n'a refusé à quelqu'un d'aller voter ou d'être candidat à une élection. Mais celui qui n'est pas dans le camp du gouvernement dira le contraire. Non, on ne peut pas faire des manifestations. On n'a pas eu la liberté d'aller voter. Même l'école, c'est pas facile. L'État ne garantit pas. Vous voyez, c'est une question qui dépend parfois de l'opinion politique des gens. Mais l'activiste vous dira non. Les droits de l'homme en Afrique, ce n'est pas encore ça. Il y a un chemin, vraiment. C'est vrai que partout dans le monde, la question du respect des droits de l'homme est une question permanente. C'est une lutte permanente. On n'a pas fini de régler ça. Mais en Afrique, la lutte est encore plus rude et encore plus conséquente et plus importante.
Au vu de cela, est-ce qu'on peut dire quelle différence peut-on faire entre état de droit et état démocratique? Parce qu'il existe une différence?
Bien sûr, bien sûr. Je vais toujours partir des exemples.
Oui.
Quand on dit état de droit, c'est typiquement l'état d'Allemagne dans le temps d'Hitler. Je m'explique. L'état de droit, c'est simplement un état dans lequel il y a des textes qui sont élaborés, des lois qu'on doit respecter, et tout le monde respecte ces lois-là, les dirigeants y compris. Ça s'arrête là.
Donc, si je comprends bien, l'état de droit, c'est un état dans lequel les dispositions législatives, réglementaires sont respectées.
Oui, c'est élaboré
par chaque citoyen, quel que soit son rang social ou son statut politique.
Oui, les dirigeants y compris.
Les dirigeants y compris.
Oui. Mais la question se retrouve dans la substance de ces dispositions-là. C'est là la nuance avec la démocratie. Un état démocratique est en réalité un état de droit au sens substantiel. Substantiel, disons que la substance de ces dispositions qui sont élaborées dans l'état démocratique respecte les droits de l'homme. Vous voyez, dans le temps d'Hitler, l'épuration ethnique qu'Hitler faisait, c'était légalisé.
C'était légal, puisque les lois appliquées étaient votées.
Voilà. Vous voyez, donc Hitler disait que tout ce qu'il fait, la loi l'a prévu. Par contre, dans un état démocratique, avant même d'élaborer les lois, on s'assure que les lois la tiennent compte des droits humains.
D'une réalité des droits de l'homme dans l'État et dans le monde.
Aucun pays qui se veut démocratique maintenant ne peut faire. Enfin, l'Assemblée, le pouvoir législatif d'aucun pays qui se veut démocratique ne peut pas élaborer une loi sans tenir compte des réalités des droits humains. Vous voyez? C'est la nuance. La nuance, c'est tout simplement au niveau de la substance.
Des lois votées et de l'application de ces lois.
Des dispositions qui régissent.
Donc, il y a une autre question qui ressemble typiquement à celle-ci. C'est de savoir quel rapport peut-on établir entre droits de l'homme et démocratie. D'une part, je pense que tu viens de l'établir. Ouais. Et entre droits de l'homme et état de droit de l'autre. D'autre part.
Je vais me reprendre rapidement sur droit de l'homme et démocratie. En réalité, on ne peut pas parler de démocratie aujourd'hui sans parler de droits de l'homme. Quand on parle de démocratie, la vraie. Ouais, je dis la vraie.
Oui, tout à fait.
Quand on parle de démocratie, la vraie, parce qu'il y a de fausses démocraties. Et la vraie démocratie, moi, je l'appelle une démocratie libérale. Vous voyez, libéral, ça vous parle déjà. C'est là où vous avez le respect des libertés, expression, d'opinion, de manifestation. Tout ce qui est droit de l'homme, il y a ces éléments-là qui sont garantis dans une démocratie libérale. Par contre, dans une démocratie qui n'est pas libérale, je l'appelle illibérale, c'est plutôt le respect de quelques droits, la croissance économique, la restriction de quelques droits.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des démocraties hybrides qui sont à la limite du libéral et à la limite de l'autoritarisme?
C'est ça, c'est ça. C'est parfaitement, c'est la meilleure façon de définir une démocratie libérale de façon simple. Il y a deux extrémités. D'un côté, on a le respect de quelques droits. D'un autre côté, on a la restriction de quelques droits. Maintenant, venons aux droits de l'homme et l'état de droit. Quand on parle d'état de droit, il y en a sous deux formes. L'état de droit au sens formel, c'est ce que Hitler appliquait. L'état de droit au sens substantiel, qui respecte les droits de l'homme. L'état de droit au sens formel, c'est cet état-là dans lequel les lois, les dispositions législatives sont élaborées, tout le monde les respecte. L'état de droit au sens substantiel, c'est l'état dans lequel toutes les dispositions qui doivent être élaborées doivent être en accord avec les droits de l'homme. L'état de droit substantiel est en réalité une démocratie.
Ça devient très intéressant. Je me demande si la conception juridique et sociologique des droits de l'homme peut varier selon que l'on soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Puisque au début, au moment où tu définissais les droits de l'homme, tu dis que ce sont des droits universels. N'importe où que tu te retrouves sur cette terre, ces droits qui sont tes prérogatives, qui te sont reconnus par ton État, doivent être respectés par les autres États, puisqu'elles sont universelles. Donc on se demande aujourd'hui si la conception juridique et sociologique ne varie pas selon que l'on soit en Chine. Toi-même, tu l'as dit, il y a certains États qui respectent certains droits et privent les citoyens d'autres droits. Donc, est-ce que ça ne varie pas?
Quand on se remet à l'universalité des droits de l'homme, je dirais directement que oui, la conception, aussi bien juridique que sociale, des droits de l'homme doit être la même. Qu'on soit au Bénin, en Chine ou
ça, aux États-Unis. C'est l'idéal.
C'est l'idéal.
Mais dans la pratique.
Mais dans la réalité, le côté social diffère. Nous n'avons pas les mêmes réalités sociologiques au Bénin qu'en Chine, qu'en France ou aux États-Unis. Et la question qui fait d'ailleurs répondre, l'élément, la thématique qui fait répondre clairement à cette question, c'est la question de l'homosexualité.
On va en venir.
Oui, on va en venir. Mais je dis rapidement, juridiquement, partout on doit respecter l'homosexualité. Parce que les homosexuels sont avant tout des humains. Il n'y a pas de discrimination à leur faire. Mais du côté social, est-ce que le Béninois est prêt à accepter ça? Est-ce que le Chinois est prêt à accepter ça comme l'Américain est prêt à l'accepter? C'est une question à laquelle il faut faire attention avant de répondre. C'est une question glissante.
Donc, le juridique qui devait être, les droits de l'homme, qui sont un concept universaliste, universel, bute sur les conceptions, les réalités sociologiques et traditionnelles de chaque État.
On peut même ajouter le fait, c'est vrai qu'au Bénin, maintenant, la question évolue, mais dans le temps, vous voyez, dans la famille, dans la tradition africaine, c'est l'homme qu'on voit dans le foyer. Après, on voit la femme. Donc, c'est le système de patriarcat. D'ailleurs, quand un enfant naît, c'est le nom du père qu'on lui donne. On ne pense pas à lui donner le nom de la mère. Vous voyez? Donc, du point de vue juridique, c'est tout à fait pas correct. Mais sociologiquement, on trouvait ça correct. Je vous dis que c'est pas correct parce que quand on fait ça, c'est une inégalité.
C'est une discrimination. La Constitution consacre l'égalité entre hommes et femmes.
Mais sociologiquement, on l'a accepté. C'est dans nos traditions de voir le mari d'abord. Parce qu'on le dit, oui, la femme doit être soumise à son mari. Ce qui veut dire que voilà, c'est l'homme en premier. Après, on verra la fin. Donc, l'enfant, un respect total, un respect vraiment en rock.
Donc, on continue.
Je disais, c'est une question, en fait. La réalité sociologique diffère d'un état à un autre. Donc, dire que la conception juridique et sociologique doit être universelle, ça dépend du point de vue de chacun. Moi, je dirais, oui, juridique, oui, mais sociologique, il faut faire attention.
Donc, tu fais, on constate depuis quelques temps que les pays du Sahel sont confrontés aux défis sécuritaires du fait de la prolifération des foyers djihadistes sur leur territoire. Donc, pour contrer les attaques répétitives, les États ont mis en place des mécanismes au nom desquels les changements de législation pour favoriser donc des réponses militaires rapides en cas d'attaque. Tout d'abord, j'aimerais te poser une question subsidiaire. Mm-hmm. C'est savoir, le respect des droits de l'homme est-il un impératif pour un État?
En tout cas, pour un État qui se veut démocratique, c'est un impératif. Mais vous n'êtes pas sans savoir, tous les États du monde ne sont pas démocratiques. Il y a encore des États totalitaires ou autoritaires dans le monde. Pour ces États-là, les droits de l'homme ne sont pas un impératif, non. C'est peut-être la croissance économique d'abord. Les libertés, on les met en second rang. Même pour tout État qui se veut démocratique, c'est d'ailleurs ce que on veut tous en tant que droits de l'homme, parce que c'est le régime, pour l'instant, qui favorise beaucoup plus le respect des droits de l'homme que tous les autres régimes politiques. Vous voyez, donc, pour tout État qui veut être démocratique, les droits de l'homme constitue un impératif qu'on ne peut pas vraiment...
Donc on peut pas dissocier le droit de l'homme de développement pour un état de... qui se veut être démocratique.
C'est ça.
Donc l'autre question, la question principale, comment ces états, c'est-à-dire ces états qui sont confrontés aux problèmes sécuritaires, peuvent concilier sécurité et respect des droits de l'homme, puisque depuis quelques temps il y a des polémiques. On sait que lorsque les armées sont engagées sur des questions de sécurité, il y a toujours des bavures et il y a toujours des théories qui sont totalement hors cadre juridique ou hors cadre d'une législation ou hors cadre d'une convention internationale. Donc selon toi, comment les États peuvent assurer la sécurité de leurs citoyens, étant donné que les djihadistes sont quand même parmi, se fondent parmi les citoyens, et maintenant s'assurer qu'ils respectent effectivement les droits de l'homme?
Vous savez, dans chaque matière, il y a une réglementation spécifique. On parle des droits de l'homme en général, mais dans la situation des pays du Sahel, c'est une situation de conflit armé. Et en matière de conflit armé, il y a des droits, il y a des dispositions internationales spécifiques qui sont élaborées. Quand on parle de conflit armé, on parle automatiquement du droit international humanitaire. C'est ce droit-là qui régit les conflits armés. Et à l'interne, les États aussi élaborent des politiques pour faire face à ces conflits. Mais dans l'élaboration de ces politiques-là, les États ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire. Vous voyez, si les droits de l'homme en général, le droit international humanitaire en général est respecté, même dans la réglementation des conflits armés, dans les luttes, dans les affrontements, on n'aurait pas eu de bévue comme on en voit souvent. Ouais, je dis souvent que on n'aurait pas à défendre les droits de l'homme si chacun pouvait respecter ses droits. Si je respecte mes droits, vous respectez vos droits. En fait, en respectant mes droits, je ne vais jamais porter atteinte à vos droits. Pas seulement mes droits, mais mes devoirs aussi. Parce que ce sont des choses qu'on laisse souvent. On dit droit, 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 mais on oublie les devoirs.
Comme le dit un adage, ta liberté s'arrête là où commence la mienne.
Voilà. En réalité, si depuis le début, on mettait à côté des droits, les devoirs, on va éviter pour beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup oublient les devoirs. Quand je respecte mes droits, je dois aussi remplir mes obligations, respecter mes devoirs. Et si je respecte mes droits et mes devoirs, vous ne serez jamais en problème. Jamais vos droits ne seront violés, jamais je ne porterai atteinte à vos droits. Donc, Donc, si chaque État pouvait respecter leurs devoirs en matière de réglementation des conflits armés, leurs devoirs en matière de sécurité, et que les djihadistes aussi, ce qui va être un peu difficile, pouvaient respecter leurs droits, ce que les dispositions internationales ont prévu en matière de conflits armés, si chacun pouvait respecter le droit international humanitaire, on aurait peu de problèmes en matière de gestion des conflits armés. Donc, je reprends. Les États, les pays du Sahel ont l'obligation, peu importe la situation critique dans laquelle ils se retrouvent, ont l'obligation de respecter le droit des conflits armés. Ils ont l'obligation de protéger leurs civils. Ils ont l'obligation de respecter les droits qui doivent être accordés aux prisonniers de guerre. Parce que très souvent, on voit les prisonniers de guerre qui sont abattus, ce qui n'est pas normal. Ils jettent les armes quand ils sont prisonniers. Ils ont certains droits qu'on doit leur
même
respecter.
Quand ils sont djihadistes.
Même quand ils sont djihadistes, ils ont des droits qu'on doit leur accorder. Voyez, on voit souvent dans les films américains qu'on amène les djihadistes à Guantanamo. Ils subissent des traitements plus ou moins inhumains, si on peut le dire comme ça. Ce n'est pas normal. Parce que avant d'être djihadistes, ce sont des humains. Et du simple fait de leur humanité, ils ont des droits. Ils ont droit à la vie.
Quelles que soient les atrocités qu'ils aient commises.
On ne peut pas porter atteinte à leur vie, quelles que soient les atrocités. Mais ce qui se passe sur le terrain, quand le djihadiste est en train de tirer et le militaire, le soldat de l'État tire sur lui-même, ça c'est une autre question. Je dirais peut-être que c'est de la violence légitime. C'est le droit de l'État de protéger ses citoyens
en ripostant
contre ces djihadistes-là, voilà, aux attaques djihadistes. Et vous-même, d'ailleurs, on vous dit, si quelqu'un vous menace avec un couteau,
il faut répondre proportionnellement.
Ouais, c'est une réponse qu'on peut vous accorder. Ce qui veut dire que, dans certaines situations, un soldat qui, au nom de l'État, tue un djihadiste, peut être exonéré de toute responsabilité. Mais dans d'autres situations, il peut être emprisonné, il peut être traîné devant les juridictions parce qu'il n'aurait pas respecté le droit international humanitaire.
Quelle approche préconises-tu pour un meilleur respect des droits de l'homme en Afrique?
Je pense que la première des choses, c'est d'abord de se rappeler que les droits de l'homme ne sont pas des droits européens. Ce ne sont pas des droits.
C'est-à-dire que ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'Europe, de l'Occident. Voilà.
C'est le caractère universel des droits de l'homme qui fait défaut généralement en Afrique. Vous voyez, beaucoup d'Africains, et même des intellectuels, on dit souvent non, on nous a importé les droits de l'homme. Oui, c'est pendant la colonisation qu'on nous a apporté les droits de l'homme, sinon nous on ne connaissait pas ça. Mais ce qui est totalement faux. Si c'était le cas, dans nos royautés, ce serait de l'anarchie. Parce que la démocratie dont on parle aujourd'hui, ça se passait déjà dans nos royaumes. Il y a certaines limites qu'on ne pouvait pas franchir.
Il y a une certaine structuration de la société, du fonctionnement de nos sociétés, du temps des royaumes.
Voilà. Tu ne peux pas te lever un jour et aller tuer quelqu'un. Tu ne peux pas aller voler ce qui ne t'appartient pas. Quand tu voles, tu vas répondre devant le roi ou bien devant son conseil. Vous voyez, si nous, Africains, on peut déjà savoir que cette réalité des droits de l'homme n'est pas une réalité occidentale, mais une réalité universelle. Les droits de l'homme vont être mieux respectés. Mais j'ajoute aussi, et c'est ma citation préférée, les droits de l'homme seront mieux respectés si chacun pouvait respecter ses devoirs. Si l'État respectait ses obligations avec sa population, si chaque dirigeant respectait ses devoirs, si chaque citoyen lambda, moi je respectais mes devoirs, vous respectiez vos devoirs, on serait à un point où on aurait une évolution des droits de l'homme. Mais la question des droits de l'homme n'est pas une question constante, une question qui va être terminée du jour au lendemain. C'est une lutte constante. En Europe, ils n'ont pas fini avec le respect des droits de l'homme, sinon on n'aurait pas les gilets jaunes. on n'aurait pas la lutte pour le respect des droits des LGBTQI en France. Aux États-Unis, on ne serait pas encore en train de parler de ségrégation raciale en 2021. Et pourtant, on en parle. Ce qui veut dire que, aux États-Unis, il y a encore des États qui appliquent la peine de mort. Voyez donc, la question des droits de l'homme, c'est une lutte permanente. Et heureusement, il y a des organisations de défense des droits de l'homme, aussi bien à l'échelle internationale que nationale, qui s'assurent de rappeler aux dirigeants quel est leur devoir, pas seulement aux dirigeants, mais aussi aux citoyens, quel est leur devoir en matière de respect des droits de l'homme. Cette lutte doit continuer. Les organisations doivent sensibiliser beaucoup plus la population africaine sur ce que c'est que les droits de l'homme d'ailleurs. Le respect des droits de l'homme. Ce qu'ils peuvent attendre de l'État. Ce que l'État doit faire pour la population. Ce que la population peut faire pour l'État. Pour l'aider à mieux respecter, à mieux garantir les droits de l'homme.
Puisqu'on parle de droits de l'homme, État de droit, État démocratique. Au jour d'aujourd'hui, le Bénin est-il un État démocratique?
Ah, une question importante. Dans les statistiques de Reporters sans frontières, si je ne me trompe, le Bénin a eu un recul conséquent en matière de respect des droits de l'homme. Et quand je dis un recul, ça veut dire que on ne peut pas dire que le Bénin n'est plus une démocratie. On est toujours une démocratie étant donné qu'il y a quelques principes démocratiques qui subsistent encore. On a eu des élections récemment,
ouais.
Même si entre griffes, pour certains, ces élections-là ne sont pas démocratiques. Et pour d'autres, ce sont des élections démocratiques. Ça dépend de la conception de chacun. On a eu des élections. On va à l'école. La police est là pour notre sécurité. Nous avons la liberté de créer des entreprises, la liberté de culte, de manifestation, même si c'est restreint d'une façon ou d'une autre. La liberté d'expression, nous l'avons encore. Sinon, je ne serais pas en train de faire cette interview maintenant.
Oui, tout à fait. Moi-même, je n'aurais pas quitté chez moi et me rendre ici.
Nous l'avons d'une façon ou d'une autre. Mais ces derniers temps, je dirais qu'il y a un recul, un vrai recul. Je dirais que notre État est beaucoup plus dans une lutte pour la croissance économique plus que le respect des droits de l'homme. J'ai envie de dire que les droits de l'homme ont été rangés, sinon certains droits ont été rangés au second rang, en seconde zone, et la croissance économique est en avant. C'est d'ailleurs, pourquoi dans les rues de Cotonou maintenant, il y a de belles voies, on circule un peu plus facilement. Mais on ne peut pas parler comme on parlait il y a un moment.
Il y a de cela quelques années.
Ouais. C'était un régime. On ne peut pas se réunir comme on le faisait avant. On ne peut même pas envoyer certains messages par WhatsApp maintenant, comme avant. Voyez, quand on tient compte de ces éléments-là, et aussi de certains éléments législatifs, certaines dispositions législatives qui ont été votées, en l'occurrence, le code sur le numérique, qui a vraiment été objet de débat entre les doctrinaires, les universitaires en ont parlé, des organisations, des institutions internationales qui sont au Bénin ont donné leur opinion sur
la substance
de cet instrument-là. Et beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires ont demandé au gouvernement de revoir la substance de cet instrument qui a tendance à violer certaines libertés. Voyez, quand il y a de ces dispositions qui sont élaborées, quand on voit des élections qui sont organisées, mais qu'il y a un faible taux de participation de la population à ces élections, quand on voit que, on ne peut pas parler comme on le faisait il y a quelques années, quand la liberté d'expression, la liberté de manifestation, les droits civiques sont restreints, on se dit que nous ne sommes plus dans une vraie démocratie réellement, mais qu'on peut toujours rattraper le coup.
Dans son rapport 2020-2021 sur la situation des droits humains dans le monde, Amnesty International affirme que deux femmes transgenres auraient subi des violences en avril et en juillet et passé quelques jours en détention. Donc, selon toi, que devrait faire l'État béninois pour mieux protéger les personnes issues de la communauté LGBTQ.
Pouvez-vous reconduire?
Je disais tantôt que dans son rapport 2020-2021 oui. sur la situation des droits humains dans le monde, Amnesty International affirme que 2 femmes transgenres auraient été victimes de violences et, en avril et en juillet 2020 et passé quelques jours en détention. Donc je demande selon toi, que peut faire l'État béninois pour mieux protéger les personnes issues de la communauté LGBT, puisque ce sont avant tout des humains et des Béninois.
En réalité, sur aucun fondement, 2 personnes transgenres ne devraient être jetées en prison, je le dis vulgairement comme ça, jetées en prison sans raison, sans motif valable. C'est l'obligation la plus fondamentale de l'État de protéger toutes les personnes sur son territoire, qu'on soit transgenre ou non, qu'on soit homme ou femme, enfant, vieux ou jeune, peu importe notre orientation sexuelle, nous avons le droit d'être protégés par l'État. Et c'est vrai que Amnesty ne publie pas un fait si cette réalité n'a pas fait l'objet de longues recherches par des experts. Et donc, si Amnesty dit que 2 transgenres ont été mis en prison, ont été gardés en vue, à vue, je veux dire, 2 jours, c'est ça, hein?
Oui.
Si ces personnes-là ont été gardées à vue, c'est que c'est vraiment ça s'est passé. Maintenant, pour quelles raisons ces personnes-là ont-elles été gardées à vue du fait de leur orientation sexuelle ou pour une autre cause? Là, je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment les faits, donc je ne peux pas dire c'est simplement parce qu'ils sont, en fait, qu'elles sont transgenres, qu'elles ont été.
Mais là, dans le rapport d'Amnesty International, c'est parce que elles étaient transgenres qu'elles ont été arrêtées. D'abord, elles ont été violentées par les populations avant d'être remises à la police, qui aurait même pris des photos, même fait des vues, publié ça sur les réseaux sociaux.
Ah, je vois. En principe, ces personnes, ces agents de l'État qui ont fait subir ces atrocités, ces traitements inhumains à ces transgenres, gens devraient être punis par la loi. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'État béninois n'a pas encore criminalisé le transgenre, l'homosexualité. Donc, ces personnes-là ont toujours le droit d'être protégés par l'État. Et si quelqu'un, que ce soit un agent de l'État ou un citoyen lambda, si l'État viole ses droits ou que les citoyens lambda portent atteinte à ses droits, on doit forcément avoir la sanction. Donc, des démarches peuvent être menées, aussi bien par Amnesty ou bien on peut se rapprocher de la Commission béninoise des droits de l'homme pour faire constater cette violation-là, ou même de la Cour constitutionnelle directement, parce que d'ailleurs, la Cour constitutionnelle est le premier garant du respect des droits de l'homme. Donc, l'État a l'obligation de punir les auteurs de cette violation-là. Si les faits sont vraiment avérés, sont avérés, l'État a l'obligation de punir ces personnes-là qui ont fait subir ce traitement à ces transgenres.
Donc voilà, Justin, nous sommes à la fin de l'entretien. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. On rappelle que tu es juriste spécialiste des questions des droits de l'homme.
Merci à toi pour cette opportunité, je dirais. Et merci à toi. Ça me fait plaisir de répondre, de donner mon avis sur cette question en rapport avec les droits de l'homme en général et tout ce qui peut être du fait social. Et tout, voilà.
Merci. À la prochaine.
Okay.
Comme vous l'avez constaté, nous sommes à la fin de cet épisode consacré aux droits de l'homme. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura été très instructif et que cela vous servira à l'avenir. Merci de partager l'épisode et de continuer à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Tapez juste podcast overthinking sur tous les réseaux sociaux et abonnez-vous à nos différents canaux sociaux. Je vous rappelle que Overthinking est une extension du blog ECIT. Et abonnez-vous également à nos comptes sur les réseaux sociaux, au compte du blog ECIT sur les réseaux sociaux. Donc on se dit d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode.
J'en président tout un temps. Billet plan violet en vol au vent, survolant livraison. Gilet blanc t'achètes sans cacher dans casier d'adolescent. Cardigan Louis Vuitton pour 2 francs, montant de fabrication. Prisonnier isolé, réveillé par biais de chiffonnier. Salarié sous-payé, avarié, soudoyer, suicidé. Lampadaire sans lumière, éclair, STF et bandoulière. Antipode de la mort, dandico, peu glamour visionnaire. Tatouage insensé, cafouillage de pensée tout l'été. Dénudé, pendu, blé, très moussé sous l'effet de la scène. Policier étranger, dérangé pour ce qu'il est pour foncer. Odyssée mystifié, colisé, réparé, offensé. Dums. Qui sont-ils quand ils n'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. De la gériatrie à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les 2 barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain pour un semblant d'humanité. Charnels sont les générosités, pour hypnotiser les gens. Pendant que mondiaux immigrés se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps, où sont entassés des gens. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con. Serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en. Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Humain, je suis plus trop humain. Mais plus que humain quand je vois l'humain. Oui, soudain plus rien. Y'a plus trop d'humains que des terriens. Sur un grand terrain. Qui sème, qui se tue, qui saigne pour rien. Comme un chérubin. La seule voix que je suivrai, c'est celle de mes cordes vocales. Quand on meurt, on ne fait pas appel. La vie a ses failles. Facture, courrier et rappel. Pousse à faire du sale. Ils ne se veulent pas du bien. L'humain se fait du mal. Pour être ensemble devant nous vivre séparément. Je crois que dans l'ensemble, c'est plus facile quand on se ment. Y'a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont. Qui se posent la question. Mais qui suis-je vraiment quand je ne suis plus vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître.